Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview. C'est Julie Chaise-Martin et comme à chaque fois dans cette émission, je rencontre artistes et acteurs du monde culturel pour un moment d'échange et de rencontre autour de leur passion, leur engagement, leurs actions. Aujourd'hui, je me trouve au 5e étage du Centre Pompidou à Paris, au milieu des collections d'art moderne qui présentent jusqu'en mars 2020 un nouvel accrochage qui rend hommage aux grandes figures, aux grands marchands d'art qui ont façonné le goût de la première moitié du XXe siècle. Cet accrochage s'appelle Galerie du XXe siècle et je suis aux côtés de Christian Brien, conservateur au Centre Pompidou et chef du service des collections modernes. Il est allé puiser dans les collections du musée pour construire ce parcours original, car une fois n'est pas coutume, ce sont les grandes figures des marchands qui sont mises en lumière. Une initiative qui a pris forme au regard des chefs-d'œuvre qui se trouvent déjà dans les collections du Centre Pompidou, comme l'explique Christian Brien.
Je tiens à dire que c'est une œuvre collective, moi j'ai coordonné cet ensemble, mais nous sommes plusieurs collègues au sein du service des collections modernes à avoir pris la responsabilité de tel ou tel dossier. Nous sommes partis en général, généralement de la liste des expositions que ces galeristes avaient organisées, de la liste des artistes qu'ils avaient défendus, qu'ils avaient eu sous contrat, et puis nous avons choisi dans ces listes les artistes qui nous paraissaient les plus emblématiques et surtout ceux dont les œuvres présentées par ces galeristes donc figuraient dans nos collections, car à peu d'exceptions près, nous sommes allés puiser, vous l'avez dit, dans les collections du musée, parfois des œuvres rares, voire même jamais montrées au Centre Pompidou. Donc voilà un peu la philosophie du projet. Et vous pouvez en juger dans cette première salle, qui est consacrée à Ambroise Vollard, une figure un peu emblématique du marché de l'art du tout début du XXe siècle, et même de la fin du XIXe siècle, puisque on le sait, il a été très proche de Paul Cézanne, dont il a défendu l'œuvre qu'il a exposée. Donc c'est un peu un galeriste qu'on pourrait se partager avec le musée d'Orsay. Mais ce qui nous intéresse pour Vollard, dont la galerie se trouvait rue Lafitte, elle a été fermée au début de la Première Guerre mondiale, c'est qu'il a défendu Picasso. La première exposition de Picasso à Paris, c'est chez Ambroise Vollard. Il a aussi défendu les artistes fauves, Derain, Matisse, Van Dongen. Et puis, il était très attaché à une figure d'artiste qui est très présente dans nos collections grâce à une importante donation, c'est Georges Rouault.
Alors, Ambroise Vollard, donc c'est un des premiers marchands d'art modernes, on peut dire ça comme ça?
Oui, tout à fait, qui était une figure assez particulière, haute en couleur. C'était un métis avec un fort caractère et qui était réputé être dur en affaires.
Dans cette salle, puisque c'est la première qu'on peut faire dans ce parcours, est-ce qu'il y a une œuvre en particulier dont vous aimeriez nous parler, Christian Brien, pour évoquer un peu ce marchand et les œuvres qu'il aimait, puisque les marchands étaient aussi des découvreurs et des passionnés et des amis des artistes.
Tout à fait. Bah, tenez, par exemple, nous sommes devant un grand nu de Picasso qui date de 1901 et qui a précisément figuré dans cette exposition que Vollard a organisée dans sa galerie pour cet artiste espagnol inconnu qui venait d'arriver à Paris. Nous avons deux œuvres d'ailleurs dans la collection. L'autre est encore plus emblématique, hein, puisqu'il s'agit du portrait de Gustave Cocchio, qui n'était autre que le préfacier du catalogue de cette exposition. Malheureusement, il n'est pas dans le dossier ici, parce qu'il est dans une exposition à Bâle. Notre exposition cubiste, en effet, voyage en Suisse actuellement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une salle, on a une image, une sorte d'image synthétique du goût du marchand. Mmh. Et on peut se rendre compte que soit il avait finalement un dénominateur commun pour choisir les œuvres qu'il souhaitait montrer dans sa galerie, soit il y avait aussi peut-être pour certains plus d'éclectisme. Pour Ambroise Vollard, on sent qu'il y a quand même un goût pour justement les fauves, la couleur, l'avant-garde.
Oui, tout à fait. Et la couleur, c'est très juste, même s'il a défendu aussi le cubisme. Mais concernant Picasso, il est plutôt le marchand de la période rose et bleu, en effet. Donc c'est peut-être la couleur, effectivement, vous avez raison, qui est le dénominateur commun du goût de ce grand marchand.
Alors où est-ce qu'on va maintenant ? Dans quelle direction ? Je vous direction
propose d'aller voir le deuxième dossier qui est consacré à un très célèbre marchand dont le rôle dans l'histoire de l'art est très important, c'est Daniel Henri Kahnweiler, le fameux marchand des cubistes, de Braque, de Picasso, de Léger, de Juan Gris et de quelques autres. Alors Kahnweiler, c'est une figure très importante, parce que c'est à la fois un marchand, puis un intellectuel. Il avait une culture de philosophe, et il a participé notamment à l'écriture de l'histoire du cubisme, mais au sens propre, puisqu'il a écrit un des premiers livres théoriques sur l'histoire du cubisme. Vous savez aussi qu'il a eu de nombreuses mésaventures en tant que marchand de nationalité allemande à Paris, et au début de chacune des deux guerres mondiales, il a été interdit d'activité professionnelle. En 1914, son fonds a été saisi comme bien ennemi et il a perdu donc une grande partie de son fonds. Et la chose s'est reproduite malheureusement en 1939. Mais à chaque fois, ce galeriste a pu rebondir en quelque sorte, parfois d'ailleurs en s'intéressant à de nouveaux artistes, ce qui a été le cas après la Première Guerre mondiale. Alors dans cette salle, vous pouvez voir des chefs-d'œuvre de Picasso, de Braque, de Derain, des Léger. De très très bonne facture, des Juan Gris. Juan Gris était l'artiste qui tenait le plus à cœur, sans doute, à Kahnweiler, qui a écrit une monographie sur l'artiste, qu'il a beaucoup défendu. Il en était très proche, affectivement, en quelque sorte, et intellectuellement.
Est-ce qu'on peut dire que le XXe siècle est un grand pourvoyeur de galeries, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il en existait certaines, dont la plus connue est évidemment celle du marchand Durand-Ruel, mais il n'y avait pas énormément de concurrence encore. Comment ça se passe au XXe siècle ? Pourquoi d'un coup, il y a beaucoup plus de galeries ?
C'est vrai que c'est un nouveau métier qui se développe tout particulièrement dès le début du XXe siècle, tout simplement parce que je pense que les galeristes répondent à un besoin. Ils permettent notamment aux artistes d'échapper au relatif anonymat dans lequel ils se trouvaient en exposant simplement dans les grands salons, salons des indépendants, salons d'automne et autres. Ils étaient un peu perdus dans la masse. Et ce métier va se développer de façon fulgurante, surtout après 1945. C'est là qu'à Paris, en tous les cas, on va assister à la multiplication des galeries, dont plusieurs d'ailleurs sont créées par des galeristes femmes, ce qui est aussi une autre caractéristique de cette période.
Oui, d'ailleurs, vous mettez bien en avant les femmes galeristes. Là, on est au 3 et 5 rue du Cherche-Midi à Paris. Hein, oui, on peut s'imaginer oui, y être. Et on est donc dans la galerie d'une femme, qui est la galerie de Jeanne Bucher, donc qui s'installe à Paris en 1922. Jeanne Bucher, c'est une des premières femmes galeristes ?
Ah oui, on peut le dire. Bon, ce n'est pas tout à fait la première. Il y a eu notamment cette figure assez haute en couleur de Berthe Veil, qui était une brocanteuse. Avec Jeanne Bucher, on a affaire à une intellectuelle, plutôt, qui a ouvert une librairie-galerie rue du Cherche-Midi en 1925. Une figure de haute stature, polyglotte, cultivée, d'une grande probité aussi. Plusieurs artistes le souligneront. Sa galerie d'abord défend les cubistes hein, et puis aussi les surréalistes. Mais la grande période de la galerie, c'est pendant l'occupation, dans cette période évidemment extrêmement difficile. La galeriste va montrer dans une semi-clandestinité des artistes qui ne sont pas en cours hein, auprès de l'occupant allemand. Et elle va notamment montrer Kandinsky, qui est réfugié en France depuis 1934. Et c'est un des moments de gloire de la galerie que cette collaboration avec Kandinsky, que nous évoquons avec la première peinture achetée par l'État français à Kandinsky. Et c'était dû à l'intermédiaire de Jeanne Bucher. Et d'ailleurs, dans la vitrine, on ne l'a pas encore dit, mais dans chaque salle, il y a deux vitrines bourrées de documentation qui proviennent de la bibliothèque Kandinsky. Hein, c'est le nom de la bibliothèque du musée. On y trouve des documents extrêmement émouvants, comme par exemple ce livre d'or de l'exposition Kandinsky organisée par Jeanne Bucher en 1942.
Oui, il faut préciser qu'en effet, les galeristes et leurs artistes ont parfois des histoires d'amour. Enfin, on pourrait même écrire des romans parfois sur ces collaborations. Mmh. Mmh. Surtout en temps de guerre, comme vous venez de le préciser. Oui, il y a eu ce soutien artistique, évidemment, financier, mais presque psychologique aussi.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, l'histoire de la galerie ne s'arrête pas à cette période sombre, hein, la Libération notamment. Jeanne Buchet montrera des artistes comme Nicolas de Staël, hein, tout jeune peintre. Et puis elle fera un voyage aux États-Unis, dont elle en rapportera des œuvres d'artistes américains, comme cette œuvre de Mark Tobey que vous voyez exposée ici, qu'elle s'apprêtait à montrer à Paris. Puis malheureusement, elle a disparu. Et donc, cette exposition n'a pas eu lieu. Mais c'est pour dire qu'elle avait des idées très, très larges, finalement, sur l'actualité artistique, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Et ensuite, comment ça se passe dans la vie d'une œuvre qui est d'abord montrée en galerie? Ensuite, elle se retrouve, nous on les voit ici au Centre Pompidou. Les galeristes, donc parfois peut-être, avaient des collections personnelles qu'ils ont pu donner au musée. Est-ce qu'il existe une collaboration entre musée et galerie, justement?
Alors, ça n'a pas, aujourd'hui, c'est souvent le cas, mais ça n'a pas été toujours... le cas jusqu'à une date effectivement assez récente. Il y avait parfois d'ailleurs une sorte de concurrence. Hein. Et puis il faut bien dire la vérité, ces grands galeries, ces grands marchands d'art du début du XXe siècle ont plus fait que les musées d'art moderne français pour défendre la scène contemporaine. Hein. Les musées d'art moderne de notre pays ont mis du temps finalement à devenir ce qu'ils sont. Et donc les galeristes ont joué un rôle absolument considérable. J'aimerais qu'on jette un œil sur la salle que nous consacrons à une galerie qui ne porte pas le nom de son directeur, qui s'appelait la galerie à l'étoile scellée, qui est une galerie qui a une durée d'existence extrêmement brève. Elle n'a duré que 4 ans, de 1952 à 1956, mais elle a pour particularité d'avoir été dirigée par André Breton, donc le créateur du surréalisme, dont on entend la voix d'ailleurs derrière nous. Et qui a dirigé cette galerie avec un grand critique de l'époque qui s'appelait Charles Estienne. Et c'est un moment important de l'histoire du surréalisme puisqu'on assiste dans la programmation de cette galerie à une sorte de synthèse entre l'esprit du surréalisme et l'abstraction gestuelle. C'est très visible notamment avec cette peinture de Judith Regel, une artiste d'origine hongroise qui venait juste d'arriver à Paris. Donc vous voyez une œuvre qui a été présenté à l'étoile scellée. Même chose pour Simon Antaille, dont vous voyez ici des œuvres moins connues que ces grandes toiles très colorées qui l'ont rendu fameux. Ici, ce sont des œuvres de la période surréaliste.
Alors là, c'est magnifique en effet. Et on est dans deux univers complètement différents. Donc ces toiles de Simon Antaille, et en face de nous, on a une immense vitrine, voilà, de galeries surréalistes justement.
Oui, oui. En fait, ce dossier consacré à l'étoile scellée est présenté précisément dans la salle où nous montrons le mur de l'atelier d'André Breton, hein, qui a été reconstitué, transporté en tous les cas ici au Centre Pompidou. Et ce qui est intéressant, c'est le dialogue entre le contenu de cette vitrine et l'histoire de cette galerie, puisque notamment vous pouvez voir ici un grand tableau de Jean de Gotex qui fait partie donc de ce mur, hein, qui reste en l'état. Nous n'avons pas le droit de dissocier les différents éléments qui composent cette extraordinaire composition, hein, voulue par un grand écrivain qui était aussi un grand artiste. Et voici ce de Gotex a figuré dans une des expositions de cette galerie.
Mais est-ce qu'on a des photos de cette galerie d'André Breton? Est-ce qu'on peut s'imaginer que certains de ces objets ou de ces tableaux étaient aussi présentés dans sa galerie, ou ça n'a rien à voir? Son univers personnel était dissocié de sa galerie?
En fait, il est arrivé que certains artistes qu'il avait choisis pour être présentés dans la galerie lui fassent don d'une œuvre. Et vous pouvez le voir notamment ici, c'est un tout petit tableau, il faut vraiment avoir l'œil bien exercé pour le voir. Vous avez ici, sous cette étagère, un petit tableau de Jean Duvillier qui avait fait l'objet d'une exposition dans cette galerie. Et donc c'est l'œuvre que cet artiste a donnée à André Breton, qui avait écrit un texte magnifique dans le dépliant qui servait de catalogue.
Et pourquoi André Breton a mis fin assez rapidement à son activité de galeriste?
Oh, c'était pas le cœur de son métier, si l'on peut dire. Il avait eu une œuvre à créer, et puis surtout, financièrement, la galerie n'a pas pu durer très très longtemps. Elle a fermé avec une exposition Man Ray, une exposition de photographie. Alors, nous sommes à présent dans cet espace le plus large, le plus spacieux, en tous les cas, de cette salle d'exposition, de cette série d'expositions dossiers. C'est la salle consacrée à la galerie de Daniel Cordier. Alors, Daniel Cordier, c'est un grand galeriste, très connu ici au Centre Pompidou, puisqu'il a fait don d'une grande partie de sa collection. Il avait ouvert une galerie en 1956, rue de Duras à Paris, puis ensuite rue de Miroménil. Nous reconstituons un peu le goût de Daniel Cordier, les artistes qu'il a défendus dans cette galerie qui a connu à l'époque un grand retentissement. Alors, nous sommes devant notamment des portraits de Jean Dubuffet, qui est un des grands artistes de la galerie. Nous avons aussi une salle consacrée à Bernard Réquichot, un jeune artiste qui est un peu un singulier de l'art, qui s'est supprimé trop tôt, mais dont l'œuvre est en train d'être redécouverte. Notamment, on peut voir à Paris, à la Galerie Margaron, une très belle exposition consacrée à cet artiste. Et puis, Daniel Cordier a aussi fait découvrir des artistes américains ici à Paris, comme la sculptrice Louise Nevelson ou encore Rauschenberg. Et puis, dans la dernière salle de cet hommage à Daniel Cordier, qui va bientôt avoir 100 ans, nous montrons d'autres artistes qu'il a également défendus, comme Fellström, comme Dado, comme Belmer, le photographe, Fred II, Henri Michaud et beaucoup d'autres artistes, parfois moins connus du public.
Donc là, c'est un grand galeriste qui a eu sa galerie pendant assez longtemps. Et je crois qu'il est aussi allé regarder vers les États-Unis, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'il a ouvert une galerie là-bas ?
Oui, tout à fait. Plusieurs de ces grands marchands d'art auxquels nous rendons hommage au cours de cette première année ont tenté l'aventure américaine. C'était le cas, vous l'avez dit, de Daniel Cordier. Mais cela a été également le cas de Louis Carré. Là, nous entrons dans la salle consacrée à ce grand galeriste de l'après-guerre, d'après 1945, qui a ouvert dans les années 50 une galerie à New York où il a défendu des artistes français. Louis Carré était un fils d'antiquaire, il avait commencé dans le commerce d'orfèvrerie, il était aussi un spécialiste d'art primitif et en 1938, il ouvre en collaboration avec un collègue une galerie qui restera ouverte pendant toute la période de l'occupation. Et qui va vraiment donner le ton, en quelque sorte, en 1945, avec toute une série d'expositions très prestigieuses. La galerie se trouvait dans un quartier plutôt huppé de la capitale. Hein. Elle se trouve d'ailleurs toujours à cet endroit, puisque nous avons là affaire à une galerie qui existe toujours, la galerie Louis Carré et compagnie. Et donc, l'adresse de la galerie, c'est 10 avenue de Messine. Et à vrai dire, Louis Carré n'est pas véritablement un découvreur comme Kahnweiler, comme Jeanne Bucher ou d'autres. Mais disons que c'est un galerie qui donne à voir ce que l'on n'appelle pas encore les classiques du XXe siècle, que sont Picasso, Léger, Calder et beaucoup d'autres.
Oui, il faut préciser que là, on est toujours au milieu de tous ces chefs-d'œuvre, oui. Parce que plus ça va, plus je vous suis, et plus finalement, je ne vois que des chefs-d'œuvre ici.
Chefs-d'œuvre, et en même temps, vous voyez des œuvres aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos cimaises, notamment Louis Carré a beaucoup défendu Raoul Dufy, qui est un artiste que nous ne montrons pas beaucoup, à vrai dire. C'est sans doute un tort dans nos salles habituellement, mais j'ai fait venir notamment un portrait de Louis Carré par Raoul Dufy, qui est un cas unique d'un galeriste qui a été portraituré par un de ses artistes. Autre artiste peu courant sur nos cimaises, Marcel Gromaire, qui a fait l'objet de plusieurs expositions de la part de Louis Carré. Alors on peut prendre un exemple parmi d'autres, mais voyez ce grand chef-d'œuvre de Fernand Léger qui s'appelle Adieu New York a figuré dans une exposition organisée par Louis Carré. Il est passé entre les mains de Louis Carré, mais ce n'est pas Louis Carré qui nous l'a transmis. C'est l'artiste lui-même qui a donné ce tableau, de même que Picasso a donné une grande nature morte de la période de la guerre qui avait été exposée par Louis Carré et qu'il a donné 2 ans après au Musée national d'art moderne.
Est-ce qu'on peut dire que tous ces grands galeristes, avec donc leur goût, ont contribué à façonner le goût du XXe siècle, enfin là, des années que l'on parcourt ensemble ?
On peut peut-être pas le dire de tous les galeristes, mais on peut certainement le dire de Denise René. On l'a appelée la papesse de l'art abstrait géométrique, et il y a du vrai, même si la formule est peut-être contestable. Mais la galerie Denise René, qui se trouvait à l'origine au 124 rue La Boétie, à Paris, ouverte en 1944, est devenue, après une période un peu éclectique, est devenue, sous l'influence notamment de Victor Vasarely, qui a un peu servi de conseiller à Denise René à ses débuts, vraiment un centre presque, on peut dire, européen, international, pour l'art abstrait géométrique, l'art construit, ce qu'on appelait aussi, ce qu'on appelait l'art concret, et à partir de 1955, de l'art cinétique, puisque cette galerie a organisé des expositions aujourd'hui cultes, célèbres, comme là, ici, je fais allusion à l'exposition Le Mouvement, en avril 1955, a véritablement révélé ces artistes qui travaillaient avec le mouvement des formes géométriques.
Ce sont tous des galeristes français qui sont installés à Paris. Est-ce que la France, dans cette période-là, et notamment la capitale, Paris, concentrait plus de galeries que ses pays voisins en Europe ?
En effet. Alors, je voudrais effectivement préciser, nous ne l'avons pas dit jusqu'à présent, cet ensemble de dossiers est consacré à la situation des galeries en France. On pouvait tout à fait se limiter à la France. Avec un regret, cependant, c'est ce qu'on appelait autrefois la province. Hein, donc, les galeries en région pour la période qui nous intéresse, donc avant 1970, sont assez rares. Et donc, nous n'avons pas trouvé beaucoup d'exemples de ces galeries. Nous en avons pourtant trouvé une qui nous paraît importante, c'est la galerie Chave de Vence. Encore une galerie qui existe toujours, tout comme la galerie Denise René. Et donc, dans une des traverses du musée, nous présentons une sélection des choix de cet extraordinaire Alphonse Chave, qui à l'origine était un marchand de couleurs, qui ouvre une petite galerie en 1947, où il va d'abord présenter des artistes régionaux, et puis ensuite il va être en contact avec Jean Dubuffet, qui va lui-même le mettre en contact avec d'autres artistes, souvent assez singuliers, hors des sentiers battus. Et voilà ce que cela donne dans cette galerie où vous trouvez aussi bien des collages de Jacques Prévert, des collages de Gaston Chessac, de Philippe Dereux, de très belles aquarelles de Gabrichevski, et puis des œuvres de Max Ernst, parce que Ernst était dans la région, et il y avait un atelier de lithographie à la galerie Chave, et donc il a réalisé quelques estampes là-bas.
Alors, Christian Brien, on est donc au cinquième étage du Centre Pompidou. Ici, c'est un espace qui est habituellement toujours consacré à l'art moderne au XXe siècle. Vous en êtes donc le responsable des collections, le conservateur. Ici, l'idée, donc, c'est de faire un accrochage sur un an. Et effectivement, l'idée, c'est aussi que le visiteur, quand il parcourt ces salles, peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui est amateur d'art dans la première moitié du XXe siècle. Et on voit, avec notre regard actuel, ce que nos grands-parents pouvaient voir. Dans les galeries, d'ailleurs, ou dans les premiers musées.
Tout à fait, oui, on peut effectivement le dire comme cela. Et c'est spécialement vrai, je trouve, de la Galerie de France, qui est une galerie dont le nom existe toujours, mais qui a un peu changé de fonctionnement. Et on a un peu oublié cette galerie, hein, qui a été ouverte en 1942, fermée en 1981. Alors ça, c'est aussi une galerie qui a été créée pendant l'occupation. Elle montre ce que l'on a appelé à l'époque les jeunes peintres de tradition française, qui avaient exposé ensemble, un peu à la barbe de l'occupant allemand, des tableaux plutôt modernes, hein, en fait inspirés par le cubisme. Alors parmi ces artistes, il y avait Alfred Manessier, il y avait Jean Lemoal, il y avait Édouard Pignon, trois artistes que l'on retrouve dans cet accrochage, puisqu'ils resteront très fidèles à cette galerie. Donc cette galerie, s'il faut résumer à grands traits ses choix, qui étaient très tournés vers la défense de l'abstraction gestuelle à la française. Vous en avez trois exemples ici, avec des chefs-d'œuvre de Pierre Soulages, de Zawoki et de Hans Hartung. Et vous pouvez d'ailleurs, en vous approchant de ce tableau de Hartung, voir sur le cartel que ce tableau a été donné par la Galerie de France dans les années 1970. Donc c'est dire que les liens entre galerie et musée passent aussi par un geste de générosité, hein, par des libéralités comme des donations.
Est-ce que c'est la fin de notre parcours, Christian Brien, ou est-ce qu'il nous reste encore une salle ?
Oui, effectivement, et cette dernière galerie est également une galerie dirigée par une femme. Et quelle femme? C'est Iris Claire, là aussi une figure haute en couleur de la vie parisienne de l'époque. Pour l'histoire de l'art, Iris Claire, qui ouvre sa galerie d'abord aux 3 rue des Beaux-Arts à Paris en 1956, pour l'histoire de l'art, Iris Claire restera peut-être la grande défenseuse du nouveau réalisme en relation avec Pierre Restany, le grand critique. C'est en effet dans sa galerie qu'ont été présentées 2 expositions célèbres, Le Vide d'Yves Klein en 1958, si je ne dis pas de bêtises, et Le Plein d'Armand deux ans plus tard. Et dans cette salle a pour particularité de présenter un grand nombre d'archives extrêmement palpitantes, autour notamment de la figure d'Yves Klein, mais pas seulement. On y voit des cartons d'invitation au vernissage, des catalogues. La revue qu'Iris Claire avait créée, qui s'adressait aussi au public international, puisque à la Biennale de Venise de 1964, elle avait présenté une galerie flottante, la Biennale flottante, comme elle l'appelait, avec plusieurs artistes français ou internationaux.
Alors là, on finit en apothéose avec une immense photo où on voit le grand succès de cette galerie, puisque cette photo foisonne de gens qui sont à un vernissage ou qui viennent à la galerie Iris Claire.
Oui, oui, tout à fait. On voit que c'est un événement extrêmement mondain. Et si l'on regarde bien, on devine la silhouette très élégante d'Iris Claire, ici, sur la gauche de la photographie. Et dans la salle, vous pouvez voir des œuvres d'Yves Klein, de Tinguely, de Soto, de Fontana, Takis et même un artiste américain important, Ad Reinhardt, qu'elle a été l'une des premières à montrer à Paris.
Voilà, donc c'était aussi une découvreuse. Hein.
Elle fait partie des découvreuses. Oui. Tout à fait. Elle n'a jamais fermé sa galerie, qui a connu plusieurs adresses. Et un peu comme Denise René, au moment de son décès, la galerie était toujours en activité.
On va se quitter en allant découvrir une toute dernière salle.
C'est un projet qui fait partie de cette programmation, mais qui en même temps s'en distingue. C'est une salle consacrée à Paul Rosenberg, qui a été un des grands marchands des années 1920. Et ici, elle est très particulière, cette salle, c'est qu'elle a fait l'objet d'une collaboration entre un jeune artiste contemporain, Raphaël Denis, et l'un des conservateurs du musée. Ils ont travaillé ensemble, l'un pour la documentation historique et l'autre pour une création que vous pourrez voir donc dans la salle que nous appelons la salle Focus, située juste à l'entrée du musée. En fait, cette installation, tout comme cette exposition, traite de la question de la spoliation du fonds de ce grand marchand Paul Rosenberg, dont le fonds qu'il avait mis à l'abri en province a été découvert par l'occupant nazi qui s'en est donc saisi. Et après la guerre, le marchand eut évidemment le plus grand mal pour recouvrer sa collection. Mais donc cette salle est consacrée à ce moment douloureux de l'histoire de l'art qui touche aussi au marché de l'art, hein, puisque beaucoup de galeristes étaient d'origine israélite et donc ont été les premières victimes de l'occupant. Et vous verrez, cette salle est à la fois très passionnante, hein, par la documentation très diverse qui est montrée, et puis par cette évocation de cette spoliation avec la reconstitution donc par l'image. Mais je laisse le spectateur découvrir ce qu'est exactement l'installation de Raphaël Denis, qui est tout à fait évocatrice.
Est-ce que le Centre Pompidou œuvre justement participe voilà, encore et toujours à essayer de retrouver des œuvres spoliées et,
oui. Bien entendu, nous avons une équipe de conservateurs qui participe effectivement à ces recherches, qui tente d'identifier certains propriétaires des œuvres qui subsistent encore en dépôt dans nos collections.
Donc c'est une salle assez émouvante. On termine le parcours ici. Christian Brien, merci beaucoup de nous avoir fait partager cet accrochage qu'il faut découvrir donc Encore un an, donc on a le temps.
Un petit peu moins d'un an maintenant, puisque l'exposition durera jusqu'au mois de mars.
Jusqu'au mois de mars 2020. En tout cas, c'est un nouvel éclairage sur les œuvres. Donc pour vous aussi, j'imagine que vous les regardez autrement.
Tout à fait. Nous faisons des découvertes. J'aurais pu vous le signaler quand on a visité certaines salles, mais nous avons découvert l'historique de certaines œuvres dont nous ignorions qu'elles avaient figuré dans telle ou telle exposition d'un des grands marchands d'art auxquels nous rendons hommage.
Merci beaucoup, je vais vous quitter ici, Christian Brien. Merci pour cette promenade. Je rappelle que vous êtes conservateur au Centre Pompidou et chef du service des collections modernes. Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'exposition Dossiers galeristes du XXe siècle au Centre Pompidou est présentée jusqu'au printemps 2020 et vous permettra de poser un regard différent sur les collections du musée et de comprendre le rôle majeur qu'ont eu les femmes et les hommes galeristes d'Ambroise Vollard à Iris Claire. C'était l'émission Art Interview avec Julie Chaise-Martin et je vous retrouve la prochaine fois pour d'autres rencontres artistiques.